Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élections au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de l'ex-chef de l'État Robert Mugabe, a été élu président du Zimbabwe dès le premier tour. Une victoire immédiatement rejetée ce vendredi par le chef de l'opposition Nelson Chamisa, laissant craindre de nouvelles tensions dans un pays placé sous le contrôle de l'armée. Le point avec Jean-Roger Bion.
Emmerson Mnangagwa, qui dirige le Zimbabwe depuis la chute en novembre de Robert Mugabe, après 37 ans au pouvoir, a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour son principal adversaire, Nelson Chamisa, lors des premières élections post-Mugabe, selon des résultats officiels définitifs. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a salué un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Mais l'opposition a immédiatement rejeté sa victoire, annonçant qu'elle allait saisir la justice. Les résultats sont faux, nous allons dénoncer l'ensemble du processus devant un tribunal, a déclaré Morgan Komichi, le porte-parole du mouvement pour le changement démocratique, MDC, de Nelson Chamisa. Les Zimbabwéens s'étaient déplacés lundi dans le calme et en masse pour ces élections générales historiques qui devaient marquer un tournant dans l'histoire du pays où les élections ont été régulièrement entachées de fraude et de violence. Mais ses espoirs ont été touchés par la répression meurtrière de mercredi après l'annonce de la victoire écrasante de la ZANU-PF aux législatives. Le gouvernement a prévenu qu'il ne va tolérer aucune contestation.
Dans sa déclaration rejetant les résultats de la présidentielle ce vendredi, le chef de l'opposition Nelson Chamisa a accusé la Commission électorale nationale d'avoir refusé à son parti, le MDC, l'accès aux résultats avant l'annonce dans la nuit de jeudi à vendredi que son rival Emmerson Mnangagwa l'avait emporté d'une courte tête avec 50,8% des voix dès le premier tour. Le scandale de la publication de faux résultats non vérifiés est regrettable, a également écrit le leader d'opposition sur Twitter. Au Mali, il y aura un second tour à l'élection présidentielle. Le ministère de l'administration territoriale a proclamé la nuit dernière les résultats provisoires du scrutin présidentiel du dimanche 29 juillet. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue un second mandat, arrive largement en tête avec 41,42% des suffrages. Il est suivi du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a eu 17,80% des voix. Avec 7,95%, Aliou Boubacar Diallo se classe troisième. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
C'est dans la nuit d'hier que l'administration territoriale a proclamé les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle malienne, scrutin du 29 juillet, avec un taux de participation de 43,06%. Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1,333,813 voix, soit 41,42%. Monsieur Soumaïla Cissé, 573,111 voix, soit 17,80%. Monsieur Aliou Diallo, 250,167 voix, soit 7,95%.
Le porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta se réjouit de ces résultats proclamés dans les délais constitutionnels. Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise.
Même avec l'usure du pouvoir, même avec les critiques, les invectives, Ibeka est maintenant largement et alors très largement en tête avec plus de 41%. Lui, c'est d'abord le bilan qui a parlé, mais les autres sont venus avec des projets.
Les partisans de Soumaïla Cissé trouvent que ces résultats, c'est-à-dire les 17%, ne reflètent pas la réalité des urnes. Noum Togo, porte-parole du candidat Soumaïla Cissé.
Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de bourrages d'urnes, il y a eu l'achat de conscience, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Nous avons remarqué qu'à Kati, plus de 24 000 voix circulent. On ne sait pas ça appartient à qui. 700 et quelques bureaux de vote où il n'y a pas eu d'élection. Compte tenu de cette organisation, nous pensons réellement que nous allons tirer des leçons pour aller très vite.
Arrivé troisième avec 7,95%, Aliou Boubacar Diallo était à sa première participation à un scrutin présidentiel au Mali. Sori Ibrahima Traoré, secrétaire général général du parti ADP Maliba.
Sur 24 candidats, se retrouver troisième provisoirement n'est pas donné à tout le monde. Et nous pensons que ce qui s'ouvre maintenant, c'est la bataille politico-judiciaire. Nous nous y préparons. Nous pensons qu'au bout de cette bataille politico-judiciaire, nous allons certainement être au deuxième tour. Le candidat Aliou Diallo, qui a prôné le changement, le travail, qui a prôné des solutions concrètes pour soulager les maux dont souffrent les populations, et sera certainement compris et accompagné au deuxième tour.
La coalition Cheikh Modibo Diarra veut analyser les résultats avant de se prononcer, car une bataille juridique n'est pas à exclure. Amidou Doumbia, porte-parole du candidat Cheikh Modibo Diarra.
Ce que nous pouvons promettre aux Maliens, c'est que nous n'allons poser aucun acte qui puisse redescendre notre pays ou qui puisse ternir l'image de notre pays. Nous nous battons pour le Mali, nous nous battons pour le Malien. Donc tous les actes que nous allons poser, ça et là, ça va être des actes républicains, des actes qui vont permettre aux Maliens de pouvoir s'en sortir et qui peuvent permettre aux Maliens d'avoir le bonheur tant souhaité. C'est cela le fondement de notre engagement politique et nous n'allons jamais nous dérober. Nous allons continuer dans ce sens.
Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Seule structure habilitée à juger de la constitutionnalité de ces résultats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, politique en Côte d'Ivoire, les mots de l'Union européenne ne sont pas tendres envers les autorités ivoiriennes. Dérive autoritaire du pouvoir, corruption, flagrante inégalité sociale. Dans un rapport confidentiel dont l'AFP a eu connaissance jeudi, l'Union européenne s'alarme de la situation politique et sociale dans le pays avant la prochaine élection présidentielle de 2020. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon le rapport, malgré une image rassurante d'une stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire, la population s'interroge de plus en plus ouvertement sur cette croissance qui ne lui semble pas ou peu bénéfique. C'est ce qu'ont écrit les ambassadeurs de l'UE dans ce rapport commun rédigé début juillet et qui ne devait pas être publié selon une source de l'UE citée par l'AFP. L'enrichissement de la classe dirigeante ces dernières années est parfois spectaculaire, souligne le rapport. L'UE pointe les failles politiques importante de la reconstruction et les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser. Face à ces difficultés, les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes et externes et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper. Selon le texte, la confrontation entre un pouvoir qui restreint progressivement les espaces d'expression et une contestation sociale grandissante n'augurerait rien de bon pour l'échéance de 2020. S'inquiète l'Union européenne.
Politique en RDC maintenant, l'opposant congolais Moïse Katumbi a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi au Katanga pour rentrer dans son pays. Il annonce qu'il va maintenant tenter de retourner en RDC par la Zambie, a indiqué à l'AFP sa plateforme électorale Ensemble. La veille, les autorités congolaises avaient interdit à Moïse Katumbi l'accès au pays où il veut déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre. Relations États-Unis-Russie, nouvelle accusation d'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Les responsables du renseignement américain ont pris la parole hier depuis la Maison-Blanche pour dénoncer les tentatives de Moscou de s'ingérer dans les prochaines élections de mi-mandat prévues en novembre de cette année. Les précisions de Nicolas Pineau.
La Russie continue d'essayer d'affaiblir et de diviser les États-Unis en interférant dans le processus électoral américain et en s'immisçant dans le débat politique. Ce sont les accusations du patron des services de renseignement américain Dan Coats. C'est une menace que nous devons prendre très au sérieux, a mis en garde pour sa part Christopher Wray, le patron de la police fédérale, le FBI, lui aussi présent lors de cette conférence de presse à la Maison-Blanche. Pour l'heure, les efforts de la Russie pour tenter de miner nos valeurs fondamentales ne sont pas aussi importants qu'ils l'ont été pour influer sur l'élection présidentielle de 2016, a noté M. Coats. Ce sont ces interférences de la Russie dans la présidentielle de 2016 qui ont conduit le ministère de la Justice à nommer un procureur spécial chargé d'enquêter sur ces agissements, y compris une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et les autorités russes. Ces nouvelles accusations interviennent alors que les Américains se rendront aux urnes en novembre prochain pour renouveler la Chambre des représentants ainsi que le tiers des sénateurs.
Et pour terminer, une Russe employée pendant plus de 10 ans à l'ambassade américaine à Moscou a été soupçonnée d'espionnage pour le compte de son pays par les autorités américaines. C'est ce que rapporte jeudi plusieurs médias américains. De nationalité russe, cette femme a travaillé pour le Secret Service, une agence chargée de missions de protection et d'investigation sur le sol américain et à l'étranger, sans éveiller les soupçons jusqu'en 2016, selon CNN, qui cite un responsable de l'administration Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.